Deuxième moitié de l'émission Plan de match de ce soir. Dans une demi-heure, c'est la grande soirée de hockey à Soretracy avec le début de saison des éperviers.
Et le coloré Gilles Péloquin.
Ouais, Pélo, qui était avec nous tantôt et qui sera à la barre de cette soirée-là avant match d'une heure. D'ailleurs, exceptionnellement, il n'y aura pas de rappel de l'émission. On a des choses à dire aujourd'hui, mais bel et bien demain à 19h, comme c'est le cas d'habitude, le jeudi. Ceci étant dit, on est au mois d'octobre. Et puis, on cherchait octobre.
Baseball. Enfin, on est rendu là.
Ouais, alors, le baseball, on le sait, c'est un sport de tactique, de stratégie, de chiffres.
Oui, pareil qu'il y a un livre aussi, tu sais, on dit on joue selon le livre, on l'a jamais trouvé. Mais on a des experts qui, eux...
Le livre.
Oui, il y en a des experts qui l'ont trouvé. Oui. On parle de Jean-Philippe Morin et Alexandre Simard, qui sont tous les deux joueurs pour les Marlins. Alexandre Simard est aussi coach des survenants de Sorel-Tracy.
Il y a des gars qui connaissent ça.
Pas mal, tu vas voir.
OK, on écoute ça.
Alors, depuis le début de l'émission, on parle d'automne avec André Champagne. Et là, j'ai des gars qui sont des spécialistes de l'automne. On parle baseball avec Jean-Philippe Morin et Alexandre Simard. Salut les gars!
Salut!
Bonjour!
Alexandre, ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Ouais.
Oui, très
bien. Hier, il y avait un match très important entre les Mets et les Giants. Je sais qu'Alexandre, t'es un fervent partisan des Giants et d'ailleurs, c'est ton choix pour remporter la Série mondiale.
Effectivement, à chaque année par, les Giants réussissent à sortir une très grosse performance en série. Alors, cette année, comme en 2010, en 2012 et en 2014, les Giants...
Il y a une espèce de suite logique des années paires.
Effectivement, les Giants pourraient se rendre assez loin cette année, là, avec un alignement assez discret au bâton, mais il reste que... Ils ont un bon joueur qui s'appelle Madison Bumgarner qui pourrait les tenir très loin.
Puis toi, Jean-Philippe, si t'avais à faire une prédiction tout de suite pour le...
Red Sox.
Ah oui, déjà, comme
Red
ça.
Red Sox qui vont gagner contre les Cubs en finale.
OK.
Désolé pour les Giants. Mais l'affaire, c'est que ça va être un duel de partant, d'après moi, dans la série Cubs-Giants. Là, si on
va y aller, c'est ça. On va y aller par obligation. Le Cubs-Giants, donc.
On l'a vu hier. Écoute, c'est incroyable. Le Bumgarner, comment il est dominant en série.
Sauf qu'il ne pourra pas lancer le premier match.
Mais il va lancer le troisième match. Okay. Mais par contre, tu vas avoir Johnny Cueto au premier match, qui a 18 victoires dans l'année. Tu vas avoir Jeff Samardzija, qui est un très, très bon lanceur dans le deuxième match. Avec Bumgarner qui va affronter Arrieta. Par contre, faut dire que les Cubs, moi je pense, ont une meilleure rotation complète. Là. T'arrives à le premier match, tu vas avoir John Lester qui va gagner Cy Young cette année. T'arrives au deuxième match, t'as un gars qui a 2.15 de moyenne de points mérités, Hendricks, qui sort un peu de nulle part.
Mais qui a une très bonne saison. Mais il reste
très bonne saison. Puis Arrieta, qui est le Cy Young de l'an dernier, va affronter Bumgarner dans le troisième match, qui risque d'être, d'après moi, le meilleur match. Ouais, d'après moi, le meilleur match de la série.
Alexandre,
on parle de duel de lanceurs, mais il reste que dans un 3-5, parce que la première ronde, c'est pas un 4-7. Mm-hmm. Là. Si les Giants réussissent à remporter un des deux premiers matchs, là, la panique va vite s'installer là, chez les Cubs, qui ont une énorme pression cette saison de ramener un championnat.
Parce qu'on en parlait hors micro, là, ils ont un peu le curse que les Red Sox avaient précédemment.
Ah, oui.
C'est une équipe qui doit gagner un championnat à un moment donné. Ça fait 103 ans,
je vais pas me tromper, là, mais si je me trompe pas, ils ont jamais gagné au Wrigley Field.
Quelque chose comme ça.
Là. Faudrait vérifier, là, mais ça fait une centaine d'années qu'ils n'ont pas gagné.
Ça fait longtemps. Puis, c'est la seule équipe avec 100 victoires cette année. Ils ont le meilleur, je pense, pitching staff des majeurs. L'attaque fournit, même s'il y a quelques inquiétudes dans le bas de l'alignement. Mais je peux pas voir comment les Giants vont remporter 3 matchs avec une attaque comme ça. Hier, ça a été les Giants.
Ah,
les Giants, avec le 8e frappeur Gillespie qui a fait un circuit de 3 points, ça a fini 3-0. Ça va peut-être arriver dans une fois, là, mais je vois pas comment avec cette attaque-là, ils vont sortir gagnant. Le plus haut frappeur de circuit dans l'équipe, c'est Belt avec 17 circuits.
Wow.
Puis en tout, ils ont 130 circuits. Ça, 130 circuits, là, 4 joueurs des Orioles ont eu ça ensemble.
Okay.
Ah, tu vois le genre, là. Même le cœur de l'alignement là, des Blue Jays, ça ferait plus de circuits que pratiquement toute l'équipe exemple là, des Giants.
Donc, je vois pas comment que... Oui, on dit que la défensive gagne le championnat, le pitching aussi, mais je vois pas comment que les Giants peuvent gagner 3 matchs contre les lanceurs des Cubs.
Si tu regardes à ta gauche, Alexandre, lui, est certain du contraire.
Ben, moi, je me dis que ils vont surprendre, puis ils ont quand même une bonne équipe avec des vétérans établis et un entraîneur qui n'a déjà vu d'autres. Là, il a déjà vu neiger.
Mm-hmm.
Puis même hier, on voyait, là, il gérait, il paniquait pas du tout.
Ah oui, gérant, côté gérant, il est très
bien. Ben, c'est ça, exactement, puis ça peut payer.
OK, on va passer...
Cubs en 4.
OK, puis toi, Alexandre?
Ah, je vais y aller pour les Giants ensemble.
OK, on va passer à l'autre série dans la Nationale. Les Nationals affrontent les Dodgers. Est-ce que ça va être aussi excitant?
On n'est encore pas d'accord, je pense. Moi, je dis les Nationals en 4.
Moi, j'y vais pour les Dodgers. Les Dodgers, à chaque année, c'est un peu l'équipe Hollywood, là, si on veut. Là. À chaque année, ils ont des joueurs, il arrive des polémiques. Le Puig, cette année, dans le 3A, il remonte. Bref, c'est une équipe de superstars. Puis cette année, je pense qu'ils vont
réussir.
Ils ont
des bons lanceurs aussi, les Dodgers.
Ben oui, effectivement. Kershaw va lancer le premier match. Ensuite, on y va avec un partant. Est-ce que c'est Maeda le deuxième match ou il va lancer le troisième match?
C'est le troisième match Maeda qui a eu une douzaine de défaites cette année, mais quand même une quinzaine de victoires.
Mais reste que du côté des Nationals, on n'aura pas Strasburg pour la première ronde, donc ça peut coûter cher.
Donc toi, Jean-Philippe, tu dis les Nationals.
On parle de Kershaw, premier match, mais on oublie de dire que c'est Scherzer aussi qui va lancer le premier match pour les Nationals, qui va être un très bon duel. Donc écoute, moi les Nationals sont plus complets, premièrement à l'attaque, plus de punch. Ils vont manquer beaucoup leur receveur, Wilson Ramos, qui aurait été receveur toute l'année. Par contre, formation carrément dominante de A à Z.
Ils ont terminé 10 matchs devant les Mets.
10 matchs devant les Mets, qui eux ont aussi fait les séries. Là. Ouais. Tu vois genre que...
Moi, je ne crois pas à la magie de Daniel Murphy cette saison. Non, je crois pas qu'il répétera ce qu'il a fait avec les Mets l'année passée, là, qui ont éliminé les Cubs. Cette année, je crois pas à ça.
Ça se peut, ça va être bon. D'après moi, les Nationals vont
aller. On va passer dans l'américaine. On va parler des Red Sox de Jean-Philippe qui affrontent les Indians.
Écoute, ça va être une série, je pense, la plus facile en trois matchs.
Es-tu d'accord avec ça, Alexandre?
Oui, je suis d'accord. Je mettais un balayage aussi là du côté des Red Sox. Ils ont une très bonne attaque. Ils ont des bons lanceurs et c'est une bonne machine de baseball. Ouais. Je dois l'avouer.
Si on commence à Cleveland, vous pensez que ça va être
ça sera pas un
a walk in the park.
Ça sera pas un facteur parce que c'est sûr qu'on se pose on a des points d'interrogation. Exemple sur le troisième et quatrième partant sur Clay Buckles qui a été un peu dans le bullpen, là, les lanceurs releveurs exactement cette année. Mais avec Porcello qui va être le Cy Young cette année dans l'américaine, qui a 22 victoires dans l'année. Puis là, tu arrives avec David Price. Deuxième match, je veux bien croire qu'il n'y a pas de succès dans les séries, mais à un moment donné
il est dû pour en gagner.
C'est ça, là. C'est un des meilleurs lanceurs de la ligue.
Il était avec Toronto l'an dernier, ça va bien être aussi.
Puis tu sais, on a Salazar du côté des Indians qui sera pas là pour la première série. On va seulement avoir Corey Kluber qui, selon moi, est un bon lanceur. Mais en même temps, je pense pas que les Indians vont passer.
Corey Kluber, son dernier départ date à, il y a plus, je pense, ça fait une dizaine de jours qu'il a pas lancé. Il a lancé 4 manches puis il est parti sur blessure. Donc est-ce qu'il va être à 100% dur à dire? Donc, on a peut-être possiblement les deux meilleurs lanceurs des Indiens qui sont pas à 100%. Un qui lancera pas du tout.
Ouais.
Et donc, à suivre. Donc, mais
les Indiens, c'est un peu... On les attendait l'an passé aussi. Mais là, cette année, ils ont vraiment vraiment une bonne saison. Tu as l'émergence de Lindor à l'arrêt court. Tu as des gars qui ont continué de frapper. Donc, ça va être peut-être un petit peu plus serré dans les matchs. Mais je m'attends quand même à ce que les Red Sox remportent les trois matchs.
OK. Et on termine en parlant de la série que les partisans vont suivre le plus qu'on aime les Blue Jays. Affrontent une grosse machine, les Rangers du Texas. Vos pronostics là-dessus, les gars?
Ben, les Rangers se sont renforcés énormément cette année. Donc, on a Carlos Beltran, on a le receveur Jonathan McCroy qui s'est ajouté. On a des très bons lanceurs. On a Yu Darvish qui va lancer la deuxième. Ce soir, ce sera
Cole Hamels.
Donc, un très bon lanceur qui a beaucoup d'expérience, qui a gagné avec les Phillies il y a quelques années. Donc, les Blue Jays n'auront pas le personnel de lanceur.
Tu penses que au bout de la ligne, les Rangers vont être.
Mais côté lanceur partant, écoute, les Blue Jays ont aussi une des meilleures rotations dans la ligue. Point de vue partant, là, les quatre premiers, là, je dirais Estrada partie 1, App game 2, Sanchez game 3. T'as après ça Stroman qui a très bien lancé la marche de suicide.
Harry Dickey.
Dès qu'il sera pas là.
Non.
Non, il est même pas dans les 5 premiers. Okay. Il est même pas dans les 4 premiers. Liriano va être en relève aussi, ça va aider. Mais justement, leur relève.
Ça va être les
Blue Jays, la relève.
Les lanceurs partants des Blue Jays se sont pas réputés pour faire des 8 ou 9 manches, là, comme on peut voir chez les lanceurs étoiles, Baumgartner, Kershaw, ces lanceurs-là. Là. Donc, dès qu'on embarque avec un releveur sur le terrain, là, ça devient difficile. Puis je pense que c'est là que l'avantage va être du côté des Rangers.
Mais ça va être serré. Hein?
Ça va être serré.
Après moi, 5 matchs. Mais l'affaire, c'est que les Blue Jays sont pas opportunistes. Ils ont une des pires moyennes au bâton quand il y a des coureurs sur les buts. Ouais. Mais ils frappent des circuits. Ils peuvent s'en sortir avec ça. On a vu lors du match suicide incroyable avec Encarnación de 3 points. Tout le monde se soulevait. Mais dans ce match-là, les contre 3
doubles jeux. 3 doubles jeux. Je pense qu'ils ont frappé les 3 doubles jeux sur le premier lancé du lanceur. Donc 3 doubles jeux.
Manque de patience, donc.
Exactement.
Ouais, puis c'est ça, l'opportunisme, c'est très important dans les séries. T'as un coureur au deuxième but, faut que tu le fasses avancer de n'importe quelle façon. Faut que tu fasses un coup sûr. Mais le coup sûr vient pas. C'est souvent le circuit qui va tout sauver. On se rappelle dans un match suicide, ça a fini 5-2 pour les Jays en 11e manche contre les Orioles. Les deux meilleures formations des majeurs pour frapper des circuits. Les 6 des 7 points ont été frappés en coup de circuit.
Et okay. Voilà.
Et c'est ça la différence. Ils peuvent peut-être s'en sortir avec deux matchs dans la série contre les Rangers avec des circuits, mais à un moment donné, il faut que tu sois plus opportuniste. Puis les Rangers sont tellement complets. Parfait. Au bâton puis au monticule.
On fait un résumé. Tiens, Blue Jays contre les Rangers, les gars.
Rangers en 5.
Moi aussi, Rangers en 5.
Red Sox contre Indians.
Red Sox en 3.
Unanime.
Ah oui?
Ouais.
Dodgers contre Nationals?
Moi, je vais pour les Dodgers pour la dernière année de Vince Cooley qui va regarder ça là, du haut de la galerie de presse. Je pense qu'il sera pas là comme annonceur, mais il reste que les Dodgers vont passer les Nationals.
Jean-Philippe?
Moi, je dis en 4 les Nationals.
OK. Et on termine avec les Giants contre les Cubs.
Cubs en 4.
Ça va être la surprise. Les Giants en 5 vont gagner. Pourquoi pas voir Madison Bumgarner en relève au 5e match?
Ben, c'est le seul match, je pense, qu'ils peuvent aller chercher le 3e. Arrieta, il va être... Ouais, malgré qu'Arrieta pourrait gagner aussi, mais...
On se laisse là-dessus, les gars. Merci d'être passé. On va se reprendre. Ouais. On va se faire un autre rendez-vous, peut-être pour la Série mondiale, tiens.
Ouais, ben oui.
Merci, les gars. Merci.
Salut, là.
Et toi, André, tu as des prédictions pour le baseball?
Tiens? Oh là là!
Les Blue Jays contre les Rangers?
Ben, moi, je prends pour les Rangers.
Ah oui, tu prends pas pour les Blue Jays?
Ah non, tout sport confondu.
Toronto, non?
Je ne peux pas prendre pour Toronto. Okay. Ce soit, tu sais, je comprends là, que les Expos sont plus là. Puis non, je peux pas.
Boston contre Cleveland?
Boston. Boston. Non, mais je suis un
Ton cœur doit saigner présentement. Je sais.
Non, mais ce serait bien quand même.
OK. Les Cubs contre les Giants?
Si. Je pense que je vais dire les Giants.
Ah oui?
Oui, c'est les Giants.
Ça sera pas l'année des Cubs, tu penses?
Ça pourrait, okay. Si c'est pas cette année, je sais pas si ça va être...
Le dernier, c'est les Nationals contre les Dodgers.
Ben ça t'intéresse-tu vraiment, toi?
Ben les Nationals, c'est les anciens Expos.
Ouais.
Les Dodgers, ouais. Vas-y quand même pour une petite prédiction.
Les Dodgers.
OK, parfait.
Okay. Je vais te parler de hockey maintenant, moi.
OK, allons-y.
Je vais te parler de Jaromír Jagr.
Et des plateaux qu'il peut atteindre cette saison.
Ouais, mais on va regarder ça. On va mettre la table un peu.
Allons-y.
Sais-tu en quelle année il a été repêché?
Il y a 43 ans, donc 44. 1990.
Effectivement.
Ah oui?
Qui a été repêché en premier cette année-là? Ses initiales O.N.
Owen Nolan.
Oui, pour quelle équipe?
Les Nordiques de Québec.
Absolument.
Mm-hmm.
Deuxième place, Vancouver avait choisi Peter Nedved.
Oui. Très bon joueur, Peter Nedved.
Oui.
Oui.
Ben, deuxième au total, j'espère.
Mm-hmm.
Quoique, on peut parler d'Alexandre Daigle.
Oui.
On n'en parlera pas. On n'a pas le temps. Détroit avait choisi Keith Primeau en troisième place. Les Flyers avaient choisi Mike
Richie. Oui.
Ça, c'était en quatrième. Et les Penguins de Pittsburgh avaient choisi en cinquième place.
On avait échangé d'ailleurs Mike Richie au Nordique de Québec l'année suivante pour obtenir Eric Lindros, entre autres.
Ah oui, c'est vrai, t'es là-dedans. Hein?
C'est vrai.
Oh,
oui.
Toute une transaction.
Et tu sais que rapidement, Jaromír Jagr avait un peu menti aux équipes qui précédaient dans le repêchage parce que son idole, c'était Mario Lemieux.
Okay.
Et quand, par exemple, les Flyers de Philadelphie lui passaient une entrevue, il disait « Tu viens-tu jouer dans la Ligue nationale l'an prochain? » Il disait « Ah, peut-être pas, peut-être je vais rester en Europe. » Et comme il était pas sûr s'il allait venir ou pas, il prenait pas. Mais quand il y a eu l'entrevue avec les Penguins de Pittsburgh,
il a dit,
ben oui, je vais être là. Alors, ils l'ont repêché.
OK.
Ouais.
À cause de Mario Lemieux.
Oui.
Et ça a donné du papier hockey.
Ben, hey, des écoute, un duo dynamique.
Ouais. En 90, Montréal avait choisi qui?
Turner Stevenson.
T'es bien malade, toi.
Ben, je m'en rappelle.
T'es allé voir.
Non, j'ai pas été voir, je te jure, j'ai pas été voir. C'est okay. Turner Stevenson, je me souviens de ça.
OK, il jouait qui? Il jouait qui au junior?
Il jouait dans l'Ouest, probablement genre les Thunderbirds de Seattle, c'est ça?
Le goût de...
C'est-tu les Thunderbirds
oui.
de Seattle?
Oui.
Parce qu'il y avait Turner Stevenson, puis il y en avait eu un autre après ça, je me souviens plus. Mais les deux jouaient pour les Thunderbirds.
Je vais mettre ton ordinateur sur écoute.
Vas-y, je t'en prie.
Et puis, au 20e rang, les Devils du New Jersey avaient choisi Martin Brodeur.
Aïe, aïe, aïe.
20e rang.
Toutes les équipes qui sont passées par-dessus ça.
Oui.
Nous autres, on aurait pêché Turner Stevenson.
Ben, c'est ça.
Mais à l'époque, on avait Patrick Roy.
Non, mais un peu, là, il a joué 644 matchs dans la ligue. Il a ramassé un gros 190 points. En tout cas, tu as dit ça comme ça. Et pour ce qui est de Jagr, ben là, effectivement, il y a des plateaux là, qui sont accessibles pour lui durant la prochaine saison. Dans les meilleurs pointeurs, il est troisième. Il est à 19 points de Marc Messier. Au deuxième rang.
En autant de matchs? Moins de matchs?
Moins de matchs.
Ah oui.
En fait, il a, en ce moment, là, il a 1,15 points par match. Messi en a 1,07. Et puis Gretzky en a 1,92.
Oui,
ça, n'en parlons plus. Sinon, les meilleurs pointeurs en série, il est cinquième, il est à 13 de Glenn Anderson.
Okay. Qui est quatrième. C'est qui est premier?
Ben, c'est Wayne Gretzky.
Wayne Gretzky, toujours.
Regarde, arrête de me demander c'est qui. Okay. C'est tout le temps Wayne Gretzky.
OK.
Sinon, qu'est-ce que j'avais? Meilleur buteur de tous les temps. Il est troisième avec 749 à 52 de Gordie Howe.
OK. Tu sais,
il y avait Monsieur Octobre, mais Monsieur
Hockey. À 52 buts de Gordie Howe?
Oui.
Ben, ça va y prendre au moins deux saisons encore.
Ben, non? Je sais pas.
52 buts cette saison?
Ah ouais, il en prend deux, mais il est capable d'en jouer deux autres, je sais pas.
Je sais pas.
Sixième pour les meilleurs passeurs à 16 de Paul Coffey.
OK.
Des bons petits joueurs comme ça.
Il se rapproche de grandes légendes du hockey. Donc, oui. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ce gars-là s'en va directement au Temple de la Renommée.
Il est déjà là.
Ah.
Ils ont déjà gravé sa plaque. En série, les meilleurs passeurs, il est à 14 passes là, de grimper de plusieurs échelons là, et de rattraper Paul Coffey, qui en a 137. Le premier, c'est...
Wayne Gretzky. Je prends plus de chance. J'aurais dit Turner Stevenson, mais tu m'aurais dit que j'aurais triché.
Oui, c'est sûr. Le plus grand nombre de parties jouées, attention, là, il est huitième avec 1629. Et supposons qu'il joue les 82 matchs cette année, ce qu'il a fait assez régulièrement.
Okay.
C'est pas un gars qui a été souvent blessé.
Il est pas souvent
blessé,
effectivement.
Ben, s'il fait ça, il va rejoindre Mark Recchi. L'ancien Sir Ricky Ritchie,
Mark Ricky, Canadien. Il a joué avec le Canadien, il a joué avec les Flyers aussi, les Penguins de Pittsburgh.
Oui, il a joué pour Montréal de 94 à 99. Mm-hmm. Donc, s'il joue ses 82 parties, il va le rejoindre au quatrième rang. Et après là, ben, ou avant, si on regarde le classement, il y a Ron Francis troisième, Mark Messier deuxième, et le premier.
Pas Wayne Gretzky encore.
Ben non, Gordie Howe.
Ah, ok.
Franchement.
Ben oui, mais tu me dis de répondre tout le temps Wayne Gretzky. Il est où Wayne Gretzky là-dedans?
Je sais pas, puis je peux pas le retrouver, j'ai ma feuille. Ceci étant dit, on va faire une petite pause, je pense qu'on l'a bien mérité,
oui.
Et puis on revient dans quelques instants avec la suite de l'émission Plan de match.
Veux-tu que je dise quelque chose?
Non, on devrait partir pour dire quelque chose.
Non, j'ai rien à dire.
OK, à tout de suite.